Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Se reconstruire dans l'exil et ne pas perdre espoir. Quand on est opposant et que l'on vit loin de son pays, des rues de Vilnius en Lituanie à celles de Paris en France, nous vous emmenons aux côtés de Syriens ou de Biélorusses qui ont dû tout quitter. L'opposition biélorusse d'abord. Elle réclame toujours le départ d'Alexandre Loukachenko, réélu à la tête de la Biélorussie le 9 août dernier. D'un côté, elle tente d'amener le président à la table des pourparlers, tandis qu'en parallèle, la contestation connaît un renouveau depuis la journée de la liberté, le 25 mars dernier. À nouveau, plus de 200 personnes ont été arrêtées, à Minsk et ailleurs. À 200 km de Minsk, dans la capitale lituanienne, Vilnius, les Biélorusses aussi sont descendus dans la rue. Ils ont porté un immense drapeau rouge et blanc pour marquer cette journée. Mais comment lutter quand on est loin? C'est un reportage de Marielle Vituro.
Nous espérons, nous pouvons, nous vaincrons. C'est le slogan favori des Biélorusses qui descendent dans la rue. 7 mois ont passé depuis la réélection truquée de Loukachenko, mais ses opposants n'abandonnent pas. Pour défiler pour la journée de la liberté, Angelina, une jeune diplômée, s'est enveloppée dans un grand drapeau rouge et blanc, les couleurs de la Biélorussie indépendante. À ses côtés, Ilona. Elle habite et travaille depuis quelques années à Vilnius. Elle marche aussi ce 25 mars pour la liberté. Et quand il s'agit de scander « Vive le Bélarus », toutes les voix comptent.
C'est une manière d'être tous ensemble, au moins émotionnellement. Nous qui sommes à l'étranger, nous avons plus de possibilités et de moyens de faire bouger les choses que ceux qui sont restés en Biélorussie. Et nous pouvons aussi montrer que nous sommes nombreux, pas 3%, mais vraiment beaucoup, à ne pas être d'accord avec les résultats de l'élection et avec la répression qui a lieu aujourd'hui dans le pays.
Tous les jours, un groupe de Biélorusses à Vilnius coordonne les actions de protestation via la messagerie Telegram. Défilé le week-end dans les rues de Vilnius en soutien aux prisonniers politiques, le régime de Loukachenko en a incarcéré plus de 300. Et en semaine, piquet de grève en face de l'ambassade de Biélorussie. Oleg est médecin à la retraite. Réfugié en Lituanie, il travaille désormais comme assistant dentaire. Il essaye de venir tous les jours avec son drapeau. Il en est convaincu. Loukachenko partira un jour, mais à une condition.
Il faut qu'il subisse un choc économique. Il faut des sanctions économiques puissantes. Elles doivent toucher son porte-monnaie. Elles doivent viser ses amis qui le soutiennent financièrement, qui l'aident à détourner de l'argent du budget pour ses propres besoins. Loukachenko est un homme très riche. Il possède des milliards.
Depuis le 17 décembre, 88 Biélorusses, dont Alexandre Loukachenko et cette entité économique, sont visés par des sanctions imposées par Bruxelles. Interdiction de séjour sur le territoire de l'Union européenne et gel des avoirs. Il s'agit de montrer que le soutien au régime et à ses méthodes répressives a un coût. Dans leur lutte, les Biélorusses sont particulièrement épaulés par la Lituanie. 12 membres du Parlement se sont engagés pour soutenir 12 prisonniers politiques, dont les deux journalistes de la télévision Belsat. Elles ont été récemment emprisonnées pour avoir diffusé en direct les manifestations à l'automne dernier en hommage à Roman Bandarenka, un militant d'opposition tué quelques jours auparavant. La Lituanie et la Lettonie viennent aussi de publier une nouvelle liste de sanctions nationales à l'égard de personnalités biélorusses, 274 au total. Le soutien extérieur est vital pour arriver à renverser Loukachenko. C'est le message qu'envoie Angelina.
Pour que le monde s'intéresse à ce qui se passe en Biélorussie, il faut que les gens continuent de partager nos histoires. Ce qui se passe en ce moment est incroyable pour nous qui connaissons la répression depuis si longtemps.
Le HU, l'Université européenne des sciences humaines, s'est exilé de Minsk à Vilnius en 2004. La jeunesse biélorusse vient y étudier librement. Depuis la rentrée, elle a accueilli 70 étudiants qui ont dû fuir la Biélorussie après avoir été emprisonnés ou radiés de l'université pour activisme. Oladislao Ivanoui enseigne les sciences politiques. Être professeur à l'EHU est en soi un moyen de résister à la dictature de Loukachenko. Mais le professeur ne s'en tient pas là.
Je collabore beaucoup avec la presse d'opposition à Minsk. Mais j'écris des textes, des articles politiques, mais aussi culturels, qui critiquent le régime, les fonctionnaires, les pro-Loukachenko. Il faut faire quelque chose de réel, mais aussi parfois, on a besoin d'une pause. Je sais que ça sert à quelque chose. Je n'écris pas juste pour moi ou pour la rédactrice de ce journal. On reçoit des lettres de nos lecteurs.
Les Biélorusses de l'étranger sont aidés par Svetlana Tikhanovskaya, l'ancienne candidate et le symbole de cette révolution. Après s'être réfugiée à Vilnius en août dernier, elle a parcouru le monde pour plaider la cause des Biélorusses. Soutenue par des ONG locales, elle a lancé une plateforme pour que les Biélorusses se prononcent sur la nécessité d'une médiation internationale. Son but, de nouvelles élections en septembre prochain. Les opposants à Loukachenko y croient dur comme fer.
Nous retrouvons Courrier International et un nouveau Moyen-Orient qui se dessine cette semaine en une de l'hebdomadaire et des pages Europe qui nous emmène en Ukraine, en Irlande du Nord et dans l'Empire danois de Lego. Nous sommes en compagnie de Virginie Lepetit, rédactrice en chef adjointe. Bonjour Virginie.
Bonjour.
À lire dans les pages Europe de Courrier cette semaine, l'Ukraine d'abord et ce tournant dans la lutte que mène le président Zelensky contre les oligarques. Ukrainska Pravda estime que le chef de l'État prend des risques. Sur quoi porte le conflit en cours exactement, Virginie ?
Alors, sur les oligarques et leur pouvoir, mais surtout sur qui ? Parce que, rappelez-vous, donc Volodymyr Zelensky, c'est cet ancien comique devenu président ukrainien, haut la main, hein, avec 73% des voix, ça c'était il y a 2 ans. Et évidemment, il avait été plébiscité parce qu'il a incarné à l'écran, dans une série, un homme du peuple, justement l'antithèse des oligarques. Et là, depuis le début de l'année, le président a durci le ton. Alors, je vais le citer. Il dit « Les noms de famille n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est de savoir si vous êtes prêt à travailler dans la légalité ou si vous voulez continuer à créer des monopoles, contrôler les médias, influencer les fonctionnaires. La première solution, nous la soutenons. La seconde, c'est terminé, dit-il. » Et donc, ce tournant a été baptisé « désoligarchisation ». Il a saisi des actifs de divers oligarques, il a sanctionné des médias, et donc, réellement, on assiste à une guerre.
À lire également dans Courrier, Virginie, ce reportage sur les unionistes nord-irlandais paru dans le Sunday Times de Londres. Ces fidèles à la couronne britannique qui sont absolument furieux depuis le Brexit. Qu'est-ce qui les met autant en colère ?
Ce qui les met en colère, ce sont effectivement des conséquences du Brexit et notamment le protocole conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui a acté le retour d'une barrière douanière qui sépare donc l'Irlande du Nord du Royaume-Uni désormais. Et ça, ça a des conséquences sur la vie quotidienne et surtout ce que craignent ces unionistes, hein, qui sont donc les partisans du Royaume-Uni et donc de la présence de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Ce qu'ils craignent, c'est que ça finisse par acter le fait que l'Irlande du Nord, peu à peu, va retomber dans le giron de l'Irlande et donc une union, mais une union de l'autre côté, une union irlandaise.
Mais c'est un peu l'habitude des loyalistes, hein, d'adopter ce ton très menaçant, de dire que le processus de paix irlandais est de nouveau menacé. Est-ce que c'est plus sérieux cette fois-ci ?
Oui, alors c'est vrai, c'est une habitude, c'est même une stratégie. En fait, ce qui est sérieux, c'est que ces vieux loyalistes que le Sunday Times est allé interroger à Belfast, eux rapportent aussi ce que disent les jeunes. Or, les jeunes se disent visiblement que la violence est la seule façon, la seule voie qui fonctionne. Et ce qu'on voit apparaître, c'est aussi des messages sur les murs, hein, des graffitis qui désignent le personnel des douanes comme le grand coupable, et à tel point que le personnel des douanes a demandé à ne pas être pris en photo pour ce reportage, et qui donnent par exemple aussi les adresses de certains membres du gouvernement. Donc la menace, bien sûr, c'est une stratégie habituelle, elle n'en reste pas moins très inquiétante.
On termine avec un conflit toujours, mais cette fois-ci économique, avec le combat de David contre Goliath, le géant danois Lego qui s'en prend à des marchands de jouets allemands et à des influenceurs sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'il y a cette nouvelle bataille ?
Alors, c'est complètement insensé, effectivement. Donc, c'est Der Tagesspiegel qui est allé enquêter. Donc, Lego, qui est cette grande, grande marque danoise qui fabrique des briques à tenons, car c'est vraiment le mot officiel, les briques à tenons, Lego, en fait, fait feu de tout bois et veut absolument s'approprier le mot Lego comme une marque verbale. Or, il se trouve que Lego est devenu un mot générique et que, notamment, des magasins allemands en vendent, de la marque danoise ou non, et montrent aussi ce qu'on peut faire avec sur YouTube. Or, à chaque fois qu'un de ces petits magasins utilise à tort le mot Lego, la marque danoise déploie une armada d'avocats et des moyens absolument colossaux pour dire non, Lego, vous ne pouvez pas l'utiliser, Lego nous appartient. c'est une stratégie, on va dire, de verrouillage. Simplement, ils sont en train un petit peu de jouer contre eux-mêmes parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux, que ces marchands de jouets commencent à critiquer la marque danoise, se retrouvent d'un seul coup extrêmement suivis, ça fait le buzz, et c'est finalement la marque Lego qui est dévalorisée par cette attaque, puisque ça lui revient dessus comme un boomerang, et finalement, c'est une très mauvaise stratégie, en tout cas pour l'image de marque.
Merci Virginie Lepetit. Des articles à retrouver dans Courrier International, un nouveau Moyen-Orient qui se dessine en une du Courrier cette semaine. Au revoir.
Au revoir Juliette.
Dix ans de guerre en Syrie, le président Bachar al-Assad règne aujourd'hui sur un pays morcelé, exsangue. Des millions de personnes ont quitté leur maison et leur pays. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'en Europe, plus d'un million, en majorité de jeunes hommes, il faut apprendre à vivre en exil, pour un temps ou pour toujours. Un reportage signé Oriane Verdier.
Amjad a de longs cheveux noirs, un bracelet en étain au poignet et des écouteurs autour du cou. Pour nous, il fait l'effort de parler en anglais.
My name is Amjad. I work with the Syrian Center.
Amjad habite à Berlin depuis 5 ans. L'allemand qu'il parle aujourd'hui couramment est venu bousculer l'anglais qu'il avait appris dans son pays d'origine, la Syrie. Ici, il travaille pour le Centre syrien d'études et de recherches juridiques qui tente de mener devant la justice les bourreaux du régime de Bachar al-Assad. Finalement, nous continuons la conversation en arabe.
Je travaille dans l'administration du centre. En même temps, je continue d'agir pour la révolution syrienne. Nous avons créé une organisation pour mettre en place des activités culturelles et aider les militants sur place. Ma vie en Allemagne se déroule dans ce cercle, avec les gens que je côtoie dans ce milieu. Ma vie s'est construite autour d'eux. Bien sûr, il y a une deuxième histoire, celle de ma famille que je n'ai pas vue depuis 5 ans et qui vit au Liban. Mais ma vie est agréable ici. Je veux apprendre beaucoup de choses, emmagasiner des connaissances pour pouvoir faire de belles choses quand je rentrerai en Syrie, le pays où je rêve de vivre. Même si je ne me vois pas rentrer tout de suite, j'en suis même loin, puisque le régime est toujours là.
Voilà 10 ans que le régime de Bachar al-Assad s'accroche au pouvoir, malgré une guerre qui a réduit le pays en ruines. 10 ans, c'est suffisamment long pour qu'un enfant devienne un homme. Amir avait 15 ans lorsqu'il a commencé à prendre des photos de victimes de bombardements dans sa ville natale, Alep. Il est rapidement devenu correspondant pour des agences occidentales. Aujourd'hui, il a 24 ans, vit à Paris et photographie la société française.
Je ne peux pas faire de grandes choses pour la Syrie maintenant. Je pense que je suis là pour faire des choses ici. Le moment où je suis arrivé en France, ça me permet de comprendre qu'il y a un autre genre de photographie. Il y a la vie, il y a la mort. C'est pas seulement la guerre qui est importante. J'ai commencé à me comprendre, à comprendre mes passions, parce que j'ai pas le temps de découvrir ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Quand j'étais en Syrie, à 15 ans, la guerre a commencé, l'école a été fermée. Toutes les choses étaient enfermées, donc tu peux rien faire.
À l'inverse d'Amjad, Amir n'arrive pas à rêver d'un potentiel retour.
Moi, généralement, j'ai plus l'espoir dans la vie, pas seulement la révolution. Je pense que la guerre a trouvé beaucoup de choses de moi, beaucoup de sentiments. Je peux pas dire que j'ai l'espoir ou du coup, je me pose la question de fois si la Syrie me manque ou si je suis avec quelqu'un, est-ce que je l'aime ou beaucoup de questions, je ne trouve pas la réponse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est perdu. Je ne sais pas comment expliquer ça.
Serait-ce ce sentiment de destruction totale qui, paradoxalement, a aidé Amir à se construire une nouvelle vie en France? C'est ce qu'essaie de comprendre Saïf, son ami caméraman d'Alep. Lui aussi travaille maintenant à Paris. Son projet principal, un documentaire sur l'intégration des réfugiés syriens. Amir en est le personnage principal.
J'ai choisi Amir parce qu'il est très bien intégré. Il y a des gens aussi, ils ne sont pas intégrés. Donc, je voulais montrer pourquoi Amir a réussi d'apprendre le français, intégrer, avoir des amis français, travailler, tout ça. Et pourquoi les autres, ils n'ont pas pu faire ça. En fait, il y a plusieurs difficultés. La langue, c'est la première et la grande difficulté pour tout le monde. Et il faut quelques ans pour apprendre le français et ça nous fatigue.
Mohamed, un autre photojournaliste syrien, prend justement des cours de français le soir après le travail. Il a été embauché à Paris par l'agence pour qui il était correspondant depuis Douma, au nord de Damas. En 2018, la reprise de sa ville natale par le régime l'a également obligé à fuir.
It's like a house get burned.
C'est comme si ma maison était en flammes. J'ai été obligé de m'enfuir et maintenant que je suis dehors, j'ai très envie de savoir ce qui se passe dans ma maison. Mais je ne peux pas. Si je passe la tête par la porte, je serai brûlé, moi aussi. Aujourd'hui encore, tous les jours, je suis l'actualité de mon pays. Je ne pense pas que je pourrais m'établir durablement ici, parce que j'ai été forcé de quitter la Syrie. Ce n'était pas mon choix. J'aime Paris, vraiment j'adore Paris. Mais l'idée d'être obligé d'être ici m'empêche d'en profiter pleinement. Mais au moins, cette ville est ce que j'appellerais mon point zéro. C'est l'endroit où je pourrais revenir à chaque fois que j'aurai besoin de stabilité au sein de mon aventure. Mon port d'attache, aujourd'hui, c'est Paris.
My point zero in Paris.
Mohamed se prépare à prendre un avion direction l'Afrique du Nord. Il y sera photojournaliste permanent pour son agence, mais il en est certain, il reviendra régulièrement boire un verre avec ses amis sur les bords de Seine.
La musique avec Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
De l'art brut au programme aujourd'hui, vous nous faites écouter un extrait d'Outsider, le nouvel album de Philippe Cohen-Solal et Mike Lindsay.
Henry Darger, c'est l'un des grands noms de ce qu'on appelle l'art outsider, l'équivalent anglo-saxon de l'art brut, pour décrire le travail de créateurs autodidactes que la pauvreté ou la folie ont marginalisé. L'œuvre de Darger n'a été découverte qu'après sa mort, à Chicago, en 1973. Une somme impressionnante réunissant un roman épique de 15 000 pages, plus de 300 peintures grand format, mais aussi des textes de chansons. Et ce sont cet univers baroque et ses mots que le français Philippe Cohen-Solal, le créateur de Gotham Project, et l'anglais Mike Lindsay ont choisi d'adapter sur l'album Outsider, une collection de chansons aux mélodies et arrangements luxuriants, enregistrée en collaboration avec la multi-instrumentiste Anna Peel et le chanteur Adam Glover, le tout à des allures de classique pop instantané.
We sigh for the child slaves, dread the pains of the new. Their aching sorrows are many, their joys are few. None are singing, none are dancing, all in sorrow, none entrancing. Welcome the good soldiers, they welcome the true. Daylight is unhappiness, their sad evening is near. Their sun of brightness is set, yet no star shall appear. None are singing, none are dancing, all in sorrow, none entrancing. They wait for the dawn of a glad new year. And the trees of life shall wither, the sparks of life shall fall. Sorrow still shall come, and death will horribly call. All is alarming, all are in grieving, and the rebel heart's deceiving, and hope comforts all.
We Sigh for the Child Slave de Philippe Cohen-Solal et Mike Lindsay avec Vincent Teval. Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.
I'm thunder of cannon sound. The storming rebel lines broken. Their formation unstrung. The battles roar alarming. The horrors leave us grieving, and child slaves will feel joy.